CFM, le mag, la vie du pays Midi-Quercy.
Le mag pays Midi-Quercy, tous les mercredis de 12h à 12h30 et samedi à 18h.
Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être fidèles à ce mag du pays Midi-Quercy. Aujourd'hui, coup double. Nous recevons l'APIC, l'Association pour la promotion de l'identité des Causses du Quercy, qui a tout un calendrier de chantiers de restauration de murets, voire même de lavoirs, voire même de fours. Là, le prochain chantier, c'est un four, c'est sur la commune de Saint-Antonin. Alors bien sûr, les pique-niques, les ateliers d'écriture, les lectures de contes de la PIC, tout ça sera développé par Jean Naboulet et Michel Desjans, qui sont venus accompagnés de Thierry Pélissier. Thierry Pélissier est géologue, il est le président de l'Association des phosphatières du Quercy et il gère le site de la phosphatière du Club d'Oural à Bâche, tout près dans le Lot. Vendredi 20 avril, à Caïlus, il présentera un voyage au pays du phosphate, raconter comment l'extraction du phosphate a dessiné nos régions et puis surtout a permis de connaître les sous-sols et de découvrir finalement les fossiles. Une soirée bien intéressante. Mais aussi des annonces. Concert afro-caribéen jazz avec le Grand Dole, c'est à Saint-Antonin-Nobleval le vendredi 20 avril à 21h à la salle des Thermes. C'est organisé par l'association Même sans le train et la participation est libre même si elle est nécessaire. Du 23 au 27 avril, des contes jeunes publics par la Coccinelle Bleue dans la médiathèque intercommunale de la communauté de communes du Quercy-Caussadé. Les contes jeunes publics accueillent gratuitement les enfants scolarisés à maternelle et les enfants non scolarisés de la communauté de communes. Albias, mercredi 25 avril, les racontines avec Nicolas, l'ogre des mots de l'association Réel, c'est à la médiathèque d'Albias à 10h30. Vendredi 20 avril à Arnac, à l'école de piano nocturne, air et marche à l'occasion d'un mariage, joué par Jean-Paul Carrère, c'est à 21h à l'école de piano. Je vous le dis assez longtemps à l'avance parce qu'il faut s'inscrire. Les transports culturels de Bois-Belle-Tude vous amènent le samedi 28 avril au théâtre Garonne pour voir une pièce qui s'appelle Ashes to Ashes d'Harold Pinter. On peut prendre le bus pour 3 euros depuis Caïlus, Saint-Antonin, Bruniquel, Négropolis jusqu'à Toulouse. L'entrée est à 10 ou 15 euros. Bien entendu, il vaut mieux s'inscrire. Et pour ça, il faut appeler le 06 82 43 30 82 ou le 06 78 79 13 85. N'oubliez pas, tout de suite après la musique, les deux coprésidents de la PIC, Michel Desjans et Jean Naboulet, accompagnés de Thierry Pélissier. L'association pour la promotion de l'identité des causes du Quercy a deux coprésidents, c'est Michel Desjans et Jean Naboulet. Alors Michel Desjans a tendance à dire « Oh papa, moi je ne veux pas m'occuper des conférences, des colloques, des trucs comme ça, il y en a qui sont meilleurs que moi pour ça, laissez-moi tranquille avec les chantiers ». C'est un peu ça Michel Desjans ?
Voilà, tout à fait, on s'entend très bien avec Jean d'ailleurs. Ouais.
Et là vous avez la PIC, enfin, reliée à Gennebrière le four, du puits et lavoir, ou peut-être que le pain qui était fait dans ce four à Gennebrière, c'était avec l'eau de là-bas, on ne sait pas.
Oui, en effet, sur Gennebrière, il y a beaucoup de puits, et visiblement, c'est bien fourni en eau par les nappes perchées. Hein. Et on a découvert, en ouvrant le chemin de Genevrières-Aubéry, un magnifique lavoir, une mare lavoir, comme quoi les anciens avaient ce sens du partage de l'eau. Et ça mérite d'ailleurs que ce site soit mieux exploité.
Alors, exploité, ça veut dire des cars de touristes qui viennent avec des appareils photo.
Eh bien, certains l'ont prédit, des pleins cars venant
c'était
de
la hantise.
De Chine, hein,
c'était la hantise.
On n'en est pas là, c'est pas sentir la popie quand même.
Ouais, mais c'était la hantise des gens qui se sont installés là pour être au calme, parce
voilà,
que c'est un bout de route. Après, il n'y a plus rien, il y a un cas militaire.
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais disons que cette mare lavoir, c'est quelque chose de très instructif parce que l'eau coule en résurgence l'hiver et à ce moment-là, ça fonctionnait en lavoir. Et le reste de l'année, ça servait pour les troupeaux. Et donc, c'était une mare pavée, visiblement, hein, pour que ça soit facile à nettoyer. Et en face, il y a un magnifique puits. Avec une particularité, c'est qu'il y a d'un côté une margelle, de l'autre côté, comme une porte jusqu'au ras du sol. Alors on s'est posé la question, mais pourquoi est-ce que c'était une erreur, ce qui serait rare de la part des anciens. Et en réalité, nous avons su, avec les plus anciens, que cette ouverture, à même le sol, c'était pour mettre tremper les draps dans le puits. C'est remarquable comme astuce. Bien sûr, aujourd'hui, ça ne veut rien dire, mais ça vaut quand même la peine de se pencher sur cette manière de gérer l'eau. Donc, il faudra maintenant poursuivre cette opération avec l'aménagement du lavoir et la mise en valeur du puits. Donc ça, ce sera pour les chantiers à venir. Et ça permet de relier le Berry, Genevrières-Le Berry. Voilà. Et d'ailleurs, cette mare lavoir faisait pour les deux hameaux. Voilà.
Alors, Jean Aboulé, quand on découvre des choses comme ça, il faut les expliquer à ceux qui passent là, sur la route, sans aller à pied dans des sentiers, en se disant, mais qu'est-ce qu'ils ont été faire en lavoir là-bas? Alors que si c'est là, justement, c'est parce qu'il y avait l'eau, là. Et que en général, les chemins ne sont pas faits, et puis on fait un lavoir. On trouve de l'eau, et puis on fait un chemin pour y aller. Alors tout ça, après, pédagogiquement, comment ça se passe? Exposition, forcément, ces photos?
Oui, alors le but, en fin de compte, c'est quand même de l'exploiter en faisant connaître au grand public et en expliquant à quoi pouvait servir cette eau. L'idée, en fin de compte, c'est déjà de faire venir les écoles pour leur montrer, en fin de compte. Et dans ce cadre, justement, nous organisons cette année avec l'école de la Cour Saint-Pierre, avec qui nous avons déjà travaillé l'année dernière, le parcours du pain, c'est-à-dire du champ de blé jusqu'à la fabrication du pain, et en passant justement par ce circuit, puisque au-dessus il y a un moulin, autour il y a des champs, entre autres il y a des champs de blé, et en passant devant on verra l'eau qui servait pour le pain. On ira au four pour expliquer comment ça fonctionne. Et ensuite, on fabriquera du pain avec les enfants. Et ensuite, on le mangera tous ensemble.
Avec des tartines.
Avec les tartines, voilà.
Alors ça, c'est des projets que vous avez, vous n'allez pas développer ça tout le temps quand même, vous n'allez pas explorer avec Google Earth où est-ce qu'il y a des broussailles, on soupçonne qu'il y avait un lavoir et personne ne sait autour, non.
Non, en général, des fois on nous indique un endroit que personne ne connaît. Là, c'était le cas, puisqu'en fin de compte, ce lavoir et ce puits étaient complètement dans les broussailles, on pouvait à peine y accéder, il fallait vraiment... c'était la jungle, hein, fin de compte. C'est toujours un petit peu une découverte. Alors,
Y compris pour les habitants du lieu.
Y compris pour les habitants du lieu. Alors, quand ça a un intérêt, parce qu'on a des chantiers sur le secteur, ou parce que ça a vraiment un gros intérêt patrimonial, à ce moment-là, on va y jeter un œil, voir ce que l'on peut y faire. Là, dans le cadre de... Michel va en parler sûrement, dans le cadre de ce lavoir, entre autres, qui est un petit peu abîmé. qui est quand même abîmé, on va sûrement entreprendre un chantier pour le remettre en état, le restaurer, et on ne pourra pas le réexploiter, bien sûr, puisque en fin de compte, les lavoirs, maintenant, on ne les exploite plus, mais au moins que les gens les voient et puissent voir ce qu'était un lavoir à l'époque, comment on s'en servait. Puisque là, en fin de compte, comme a dit Michel, il y a un côté lavoir et un côté, disons, abreuvoir, à l'autre extrémité.
Oui, vous n'avez pas fait revenir des lavandières factices pour
Non, c'est pas le genre, ni le but, ni...
C'est pas le genre, la reconstitution ouais. Empaillée.
Non, hein. On fait pas des sons et lumières.
Tout de suite après la musique, on reprend la conversation avec vous, Jean Aboulet et Michel Desjean, mais aussi avec Thierry Pélissier, président des phosphatières du Club de Rol. On va parler de cette conférence du vendredi 20 avril. Thank you.
CFM, le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Le MAG Pays Midi-Quercy, tous les mercredis de 12h à 12h30 et samedi à 18h.
Il y a une conférence et vous êtes venu avec lui, c'est Thierry Pélissier qui est président des phosphatières. Je ne savais pas que les phosphatières pouvaient dire un président. Je suppose qu'il s'agit d'une structure qui est autour des phosphatières. Bonjour, monsieur Pélissier.
Bonjour, oui.
Il y a une identité du territoire. Alors, c'est intéressant parce qu'avec l'APIC, l'Association pour la promotion d'identité des causes du Quercy, très souvent on est autour de l'eau, mais n'empêche qu'on est dans des trous. Et il y a des trous sur notre territoire qui ont vraiment marqué les paysages et même l'industrie, puisque quelquefois on a même eu des lignes de chemin de fer rien que pour exploiter ça. Des phosphatières, il n'y en a plus beaucoup de visitables. Vous êtes responsable du site du club de Rual à Bac, ou plutôt Bâche, si on prononce comme on doit prononcer par chez nous. Et il y a une conférence vendredi 20 avril à Caylus, à la Maison du Patrimoine. Qu'est-ce que ça peut apporter aux gens de la surface, de savoir ce qui se passait dans les profondeurs?
Mais c'est, ça apporte plusieurs choses. Il y a d'abord un volet histoire de notre territoire. Vous avez parlé d'identité. Effectivement, ces gisements de phosphate sont très particuliers et on en connaît d'équivalents quasiment qu'à deux ou trois endroits au monde. Donc c'est quelque chose de vraiment spécifique qui a été découvert par un Tarn-et-Garonnais, Jean-André Poumarède, qui a suscité une véritable fièvre du phosphate. Ça a été la ruée vers le phosphate dans le sud Quercy. Et ça a marqué, mais de façon très très brève, la vie du pays.
C'était quoi, les revenus pour un monde qui n'était que rural, qu'agricole, que d'élevage? Il n'y avait rien, et d'un seul coup, on s'est aperçu que sous ses pieds, il y avait une richesse.
Alors, il y avait pas rien. À l'époque, le Quercy était quand même beaucoup plus densément peuplé qu'aujourd'hui. Donc, il y avait toute une activité, mais effectivement, une activité rurale. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a fait une découverte minière, avec des perspectives qui semblaient intéressantes. Et du coup, effectivement, ça profondément perturbé, je crois que c'est le mot, la vie des gens, parce qu'ils ont imaginé avoir un Eldorado, ils ont sacrifié des parcelles qui étaient des parcelles cultivables pour extraire le phosphate qui était dessous, et puis au bout d'une quinzaine d'années, ça a été la grosse crise, on a trouvé des gisements beaucoup plus rentables en d'autres lieux, donc ça s'est fini un petit peu en autre boudin, carrément, et quand même au niveau vie du territoire, en un hiver, il y a les trois quarts de l'activité qui ont été suspendus.
Ah oui, c'est aussi brutal que ça?
Ah, ça a été très très brutal. Ensuite, ça a vivoté jusqu'au début du XXe siècle. Mais concrètement, la période faste d'exploitation s'est arrêtée, oui, de façon très brutale. Et d'ailleurs, ça a laissé chez les gens des souvenirs amers. Les mauvaises périodes, on préfère les oublier. Et donc, toute cette activité autour du phosphate est en grande partie tombée dans l'oubli.
Alors ça, c'est ce que je trouve fascinant là, c'est que la géographie écrit un moment d'histoire humaine, et puis cette histoire humaine réécrit la géographie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des vestiges qui sont des trous.
Alors aujourd'hui,
de moins en moins de trous d'ailleurs, hein, parce que toute la période suivante, c'est où est-ce que je mets ça le prix? Ah ben tiens, il y a des trous là.
Alors à la période suivante, il y a eu deux choses. Il y a eu d'abord les propriétaires qui ont rebouché leurs trous avec des déblais ou autres, parce que évidemment un trou au milieu d'une parcelle, c'est pas toujours très fonctionnel. Mais malheureusement, il y a eu aussi des dépôts d'ordures qui ont été faits comme souvent au milieu calcaire. Et ça rejoint d'ailleurs la thématique de l'eau qui était évoquée tout à l'heure, parce que l'infiltration amène cette eau forcément aux sources, et les sources généralement sont captées, donc ça rejoint encore la problématique locale. Par contre, c'est vrai que ça renvoie à la géographie, mais en plus ces trous qui n'ont pas été totalement vidés, parce que finalement la crise, ça peut être utile, ça s'est terminé donc rapidement, et du coup ils ont laissé des choses en place, et ça nous a ouvert une seconde perspective. Dans ces gisements de phosphate, il y a de très nombreux fossiles, et en fait ça nous permet de regarder vers le passé, de mieux comprendre ce qu'était notre région, notre sud Quercy, entre schématiquement 50 et 20 millions d'années.
Et là, oui, on n'avait pas pied.
Alors si, on était, la mer s'était déjà retirée depuis quelque temps. On était même dans un continent, sauf que le paysage n'était pas tout à fait le même, puisque disons que au début c'était une forêt tropicale, chaude, humide. Dans la fin de cette période, c'était plutôt une savane très sèche, subdésertique, type Sahel aujourd'hui. Justement des paysages qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui.
Avec la faune qui correspond.
Et c'est la faune, justement, qui nous permet de le retrouver. C'est-à-dire que dans les gisements anciens, foisonnent les lémuriens, par exemple, les boas, des choses de ce style-là. Plus récemment, on a des choses qui ressemblent aux gerboises actuelles, on a des rhinocéros, donc une faune qui, évidemment, n'est pas du tout l'actuelle. Mais l'intérêt majeur, c'est que ces faunes sont en continu sur une trentaine de millions d'années. Or ça, c'est une particularité, puisqu'il n'y a que 3-4 endroits dans le monde où on a quelque chose d'équivalent. Mais surtout, ça permet de suivre ce qui se passe pendant un changement climatique, parce que justement, il y a eu un grand changement climatique aux alentours de 34 millions d'années. Ça nous amène loin du Quercy, mais c'est là qu'on commençait à se développer les calottes glaciaires au pôle sud, notamment. Le climat de la Terre se refroidit à cette époque-là, et on va voir la faune, comment elle va s'adapter. Comment elle va se transformer, et ça permet de mieux comprendre justement donc les impacts de ce type de changement. Et aujourd'hui, on est allé vers le passé, mais aujourd'hui on revient vers le futur, et les études qui sont faites sur ces fossiles sont reprises par des spécialistes pour mieux comprendre ce que nous vivons actuellement, et pour essayer de voir si les modèles qui sont proposés sont des modèles, disons, envisageable ou totalement irréaliste. Donc c'est la paléontologie, finalement, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce domaine-là, c'est se tourner vers le passé, mieux comprendre le passé, pour peut-être nous aider à déchiffrer l'avenir.
Enfin, ce qui démontre que si on veut les visiter comme ça, là, histoire de visiter une grotte, le site du club de Roi à la Bâche, avec Thierry Pellissier, président des phosphatières du Quercy, c'est en fait un géologue qui est là et qui se contente pas de raconter l'histoire de l'exploitation du phosphate. En réalité, c'est une carotte plantée pour sonder la Terre et nous raconter l'histoire de cette planète.
Il y a le côté, effectivement, histoire de la Terre qui apparaît, mais je crois qu'il ne faut pas non plus oublier la partie histoire minière, la partie histoire de l'extraction, parce que c'est vrai...
Géographie humaine, en fait.
Géographie humaine, tout à fait. C'est vrai qu'au début, bon, de par ma sensibilité de géologue, j'étais beaucoup plus sensible au côté les millions d'années, le temps profond.
Oui, on est terre à terre quand on est géologue.
Même sous terre, parfois. Mais concrètement, le côté, justement, toute cette histoire, toute cette activité, cette ethno-archéologie, puisque le mot a été utilisé pour les phosphatières, finalement, paradoxalement, à cause de l'oubli qui avait été suscité par la crise, on connaissait moins bien, il y a quelques années, cette période historique que ce qui s'était passé au cours de l'ère tertiaire. Bon, et justement, l'idée d'aménager un site pour le public, c'était aussi pour aider travailler avec les gens, pour retrouver cette mémoire locale qui était en train de s'effilocher complètement. Donc on a fait tout un travail côté Lot, il y a déjà une dizaine d'années, et le but de cette conférence à Caylus, c'est aussi d'aller dans ce sens-là, parce que les phosphatières n'ont pas de frontières, en fait. Il y en a sur le sud du Lot, il y en a sur le nord du Tarn-et-Garonne, quelques-unes sur l'Aveyron, il y en a même, pour vous dire, dans le Tarn. Mais bon, voilà. Donc, en fait, notre but, c'est justement d'essayer de sauver encore ce qui reste de la mémoire humaine autour de ces exploitations de phosphate.
On peut retrouver sur le site www.apic.com. Voilà. En réalité, c'est association.apic.free.fr, hein, ça redirige. Ouais. Et vous cliquez, et Pyril vous guide. Il y a un agenda avec toutes les dates, tous les contacts pour avoir des informations avec l'APIC. Je pense que vous n'êtes pas avare d'informations. Quand on s'inscrit, on reçoit des informations sans problème. Exact. Sur toutes les dates, les rencontres, les pique-niques, les chantiers de restauration, les lieux, les lectures de contes et les ateliers d'écriture. Merci Jean Aboulé, merci Michel Desjean. N'oubliez pas, vendredi 20 avril à Caylus, à la Maison du Patrimoine, à 20h30, l'histoire passionnante des phosphatières avec Thierry Pellissier. Comment ça se passe? C'est juste une conférence où il y a des photos, il y a un fichier PowerPoint? Non.
Il y aura un PowerPoint pour montrer des documents d'époque, mais le contenu, ce sera essentiellement justement sur l'histoire humaine, donc sur l'époque de l'exploitation. quelques éléments sur l'intérêt scientifique, mais vraiment l'essentiel, c'est ce qui a fait vivre ce territoire pendant une quinzaine d'années.
Merci Thierry Pellissier, président des phosphatières du Quercy, responsable du site du club de Ras la Bâche. Donc vendredi 20 avril à Caïlus, à la Maison du Patrimoine, voyage au pays du phosphate. Merci à vous trois.
Merci.
Merci.
CFM, le MAG, la vie du pays Midi Quercy.
Le MAG Pays Midi Quercy, tous les mercredis de 12h à 12h30 et samedi à 18h.
Merci d'avoir suivi ce MAG du Pays Midi Quercy que vous pouvez retrouver sur le site cfmradio.fr en cliquant sur émission, le MAG du Pays Midi Quercy. À la semaine prochaine.